C'est vaste, mais je pense qu'on va quand même avoir une bonne idée de par où commencer. La volonté de Dieu comporte principalement deux aspects. Il y a sa volonté générale, c'est-à-dire celle que l'on retrouve dans la parole de Dieu et qui concerne absolument tous les croyants. Et il y a aussi sa volonté individuelle pour chacun de nous, et celle-là n'est pas la même pour tous. Par exemple, dans quel domaine je vais faire mes études, qui je vais marier, quelle décision je vais prendre, où je vais déménager, etc. Donc, commençons par la volonté générale de Dieu, qui, elle, est la même pour tous et qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Timothée, au chapitre 2. On va lire les versets 1 à 4. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. La parole de Dieu se lit comme ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, on te demande ce matin d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos âmes, à recevoir ce que tu as pour nous. Ta parole de Dieu fait toujours effet en nous, pas toujours le même. Des fois, on est encouragé, des fois, on est repris. Mais Seigneur, c'est toujours pour notre bien que tu le fais. Alors, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin et sois avec moi, aide-moi à bien communiquer le message que tu as mis sur mon cœur, afin que tout se fasse pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est premièrement que l'on soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ici, c'est la première étape pour connaître la volonté de Dieu, parce que Dieu n'a aucune raison de nous révéler quoi que ce soit. Ben, il peut le faire, mais généralement, il y a pas de raison de nous révéler quelque chose sur nos vies si on ne lui appartient pas, parce que sans Christ, on est ennemi de Dieu. Et la première chose que Dieu veut révéler à ceux qui ne lui appartiennent pas, c'est qu'ils ont besoin d'être sauvés parce qu'ils vont être séparés de lui pour l'éternité. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, j'aimerais te demander ce matin, toi qui es ici, je connais pas beaucoup de gens, mais peut-être que tu es dans la salle et que tu n'as pas fait de Jésus ton sauveur, le sauveur de ton âme, le Seigneur de ta vie. Je te dirais, si tu cherches la volonté de Dieu, c'est par là que tu dois commencer. C'est important. C'est la décision la plus importante que tu vas prendre dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu veut être ton Dieu, mais aussi ton guide dans la vie. Ton espérance face à la mort. Il t'offre la connaissance de la vérité en lui et bien d'autres choses. C'est ça, premièrement, la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut te sauver et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Voyons maintenant être rempli de l'Esprit. C'est aussi la volonté de Dieu. Tournez ou cliquez, on clique maintenant, avec moi dans Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens 5, les versets 15 à 20. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit ici que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, être rempli de l'Esprit? Lorsqu'on a été sauvé, quand on fait de Jésus le sauveur de notre âme, quand on le rencontre personnellement et qu'on se repent devant lui, quand on passe par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous, immédiatement. Et tout chrétien, sans exception, a reçu le Saint-Esprit à sa conversion, parce que sinon, il n'a pas été sauvé. La parole de Dieu nous dit, en Romains 8, 9, « Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, on ne peut pas être né de nouveau si on n'a pas le Saint-Esprit. Et je dis ça, je le mentionne parce que j'ai rencontré des gens au fil des ans qui croient que le Saint-Esprit se reçoit dans une étape. Donc, on devient chrétien et plus tard, on reçoit le Saint-Esprit. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit ici. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, il faut comprendre que être rempli du Saint-Esprit, pour l'être, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Et c'est là, à ce moment-là, que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et maintenant, je vais ajouter que être rempli de cet esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique. Et là, je vais vous raconter une histoire, une anecdote, quelque chose de vrai. Et soyez certains que je ne veux pas être dénigrant envers personne ou quoi que ce soit. Ce que je veux démontrer, c'est que quand on s'éloigne de la parole de Dieu, quand on ne vérifie pas tout à la lumière de la parole de Dieu, on peut vraiment, des fois, en arriver à de fausses conclusions et être totalement dans l'erreur sur bien des points. Alors, restons proches des Saintes Écritures. C'est important pour l'enfant de Dieu. Il y a quelques années, un frère de l'Église est venu me voir pour me raconter quelque chose. Il était allé en visite dans une autre Église et il m'a raconté que pendant qu'il était là, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Le pasteur en avant a cessé de prêcher pour faire la poule. Il imitait carrément la poule. Et pendant ce temps-là, dans la salle, il y a la moitié de la salle qui s'est mise à rire et l'autre moitié à pleurer, mais tout le monde en même temps. Pour eux, c'était ça, être rempli de l'Esprit. Et là, le frère en question était mal à l'aise, alors il a pris des marches pour aller au sous-sol du bâtiment et aller chercher sa fille à l'école du dimanche. Et là, dans les marches, il y avait un gars qui était couché et qui était malade. Le gars se vomissait dessus. Alors le frère lui a dit, « Es-tu correct? Veux-tu un verre d'eau? Veux-tu quelque chose? » Le gars, il dit, « Non, ça va. Il dit, je suis tellement rempli de l'Esprit que je déborde. » Vous savez, ces gens-là croyaient réellement vivre une expérience, une manifestation du Saint-Esprit, mais moi, ce que je crois, c'est que si vous êtes témoin de choses semblables, que ce soit dans une église ou ailleurs, sortez de là tout de suite parce que ces choses-là ne viennent certainement pas de Dieu. Et là, j'espère, Joël, que je ne suis pas en train de faire une coutume de l'église ici, non? OK. Pfiou, vous me rassurez. Dites-moi tout de suite. Non, mais comprenez qu'être rempli de l'Esprit, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. D'ailleurs, dans les chapitres 4 et 5 de l'Épître aux Philippiens, aux Éphésiens, pardon, je dis aux physiciens, c'est une autre affaire. Donc, dans les chapitres 4 et 5 d'Éphésiens, où il nous est dit ici d'être remplis de l'Esprit, en Éphésiens 5, 18, et aussi de ne pas attrister le Saint-Esprit, en Éphésiens 4, 30, ce dont il est question dans le contexte, ce n'est pas de manifestation mystique, mais de la poursuite de la sanctification. Il est question dans le contexte de marcher d'une manière digne de Jésus-Christ. Donc, être rempli d'esprit, c'est se laisser diriger par lui en s'imprégnant des choses de Dieu. Et en Éphésiens 5, 19, l'apôtre Paul nous dit comment être rempli de l'esprit sans se vomir dessus. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et dans un autre texte, en Colossiens 3, 16, il est écrit sensiblement la même chose qu'ici. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être l'objet de toutes sortes de manifestations bizarres. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire être imprégné des choses de Dieu. Ça veut dire de laisser le Saint-Esprit qui habite en nous prendre toute la place dans notre vie. Ça veut dire se laisser diriger par lui. Ça veut dire poursuivre notre sanctification. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Troisième point, la volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois saint. Et pour vous aussi. Donc, quand je dis pour moi, ce n'est pas personnel, mais pour nous tous. Tournez avec moi en 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Les versets 3 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Avez-vous remarqué que ce passage débute et se termine par un appel à la sanctification? La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons saints, c'est que nous poursuivions la sanctification. Dieu nous appelle à être saints parce qu'il est saint. Dans le Lévitique, à au moins 5 reprises, l'Éternel dit à son peuple, « Vous serez saints, car je suis saint. » C'est la volonté de Dieu. Et le Nouveau Testament réitère ça pour l'Église. Nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de Jésus-Christ, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. C'est la volonté de Dieu pour nous, la sainteté. Et 1 Pierre 1 nous dit, dans les versets 14 à 16, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La recherche constante de la sanctification n'est pas facile à assumer, parce que ça ne nous tente pas tout le temps de poursuivre la sanctification. Vous savez, on vit dans un monde corrompu par le péché. Un monde aussi qui rejette Dieu, qui rejette les valeurs de Dieu. Un monde pour qui la Bible, c'est quelque chose du passé et qui ne fait pas de sens. Alors quand nous, on veut s'affirmer dans un monde qui rejette Dieu et quand on veut s'affirmer pour Dieu, c'est difficile. Et c'est parfois le chemin le plus court de baisser les bras plutôt que de se battre et continuer. Notre nature, il faut lutter avec. Parce qu'il n'y a pas juste le monde qui nous influence. Notre chair aussi est là, elle est bien vivante aussi. C'est Alain Choiquier, il y a plusieurs années, peut-être vous l'avez connu, un évangéliste européen qui était venu au Québec et il avait dit, J'ai maintenant une nouvelle nature, mais ma vieille nature, là, j'ai essayé de la noyer, mais elle sait bien nager. Elle revient tout le temps, et c'est tellement vrai. La recherche de la sanctification est difficile, mais ça ne devrait pas être une option pour le croyant. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde? Et en 1 Pierre 2,9, il est écrit que nous sommes un peuple acquis, une race élue, une nation sainte qui doit refléter la gloire de Dieu. Alors, la sainteté ne devrait pas être une option, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à être saints parce qu'il est saint. Bon, évidemment, on va lutter avec ça toute notre vie. Un jour, à cet instant glorieux où nous serons réunis avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, on sera débarrassé de la vieille nature puis de la chair. Puis on va tomber dans un état parfait de sainteté. Mais en attendant, dans l'Esprit de Dieu, on y est déjà. Mais pendant le processus, on a encore à se battre avec ça. Mais savez-vous, qu'est-ce qui est encourageant, c'est que Jésus est là pour nous aider. Parce que si on essaye par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Ou en tout cas, on ne fera pas long. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, j'aimerais rajouter, sans toi, je ne veux pas rien faire. Le Seigneur nous appelle à ça. La sainteté, c'est notre vocation, c'est celle que Dieu nous adresse pour sa gloire. Mais malheureusement, trop souvent, la sainteté, on cherche à la niveler par le bas plutôt que par le haut. La tendance à faire des compromis avec la parole de Dieu, avec le péché, avec notre foi, et là, est bien réel. Et il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus. Là. Il faut en être conscient. Parce que si c'est dur de lutter contre un ennemi qu'on ne voit pas. Mais notre chair, elle est là. Elle est sous nos yeux. Elle coule dans nos veines. Mais le Seigneur ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Et si le Seigneur veut qu'on poursuive notre sanctification, même si c'est difficile, il veut qu'on s'accroche à lui de toutes nos forces pour y arriver. Et saisissons chaque petite victoire comme étant un gros party pour nous encourager. Parce que oui, des luttes et des combats, il va toujours y en avoir. Moi, je dis souvent que la vie chrétienne, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, c'est difficile. Alors, ne désespérons pas. Puis, je pense que une façon de nous aider, peut-être, en tout cas, moi, ce qui m'aide, c'est de regarder la poursuite de la sanctification un peu différemment. C'est l'optique qu'on en a. Quelle est l'optique qu'on a de la sainteté? Dans le livre des Nombres, au chapitre 7, il y a un passage, moi, qui suscite beaucoup ma réflexion sur l'optique de la sainteté. Environ un an après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël avaient fait le tabernacle. Le tabernacle, c'était un temple portatif, donc qui leur servait pendant la quarantaine d'années où ils ont tourné en rond dans le désert. Et pendant ces 4 décennies-là où ils devaient marcher d'un endroit à l'autre, le tabernacle était sans cesse monté, démonté et transporté d'un campement à l'autre. Puis le transport de ce matériel-là était ardu parce que ça comprenait beaucoup de matériel. Et il y avait des familles de sacrificateurs, des familles de Lévites qui avaient été choisies spécifiquement par Dieu pour transporter tout ce matériel-là. Les princes d'Israël, pour le transport, avaient donné des bœufs et des chars. Lisons qu'est-ce qui nous est dit dans Nombre 7, les versets 6 à 9. Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershom, selon leur fonction. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leur fonction, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehath, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Donc, le tabernacle et ses accessoires devaient être transportés par 3 familles de Lévites. Et selon l'ordre de l'Éternel, Moïse leur donna, par les princes, des chars et des bœufs pour les transporter. Donc, la famille de Gershon, de Merari, en avait. Mais nous dit le verset 9, il n'en donna point au fils de Kehath, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur leurs épaules. Imaginez la scène. On est sous la chaleur accablante du désert. Là, il fait chaud, les pieds dans le sol, quelque chose à transporter sur les épaules. Puis là, au début, peut-être que peut-être que ça allait bien, mais puis, le texte ne le dit pas. Là. Le texte ne dit pas ce que moi je vais vous dire maintenant. Donc, je ne vous dis pas que c'est ça qui est là, mais je pousse ma réflexion à dire, ça aurait été quoi, moi, ma réaction si j'avais été un fils de Kehath qui devait porter les choses saintes sur les épaules? Peut-être qu'au début, ça va bien, mais à un moment donné, là, peut-être que je vais me dire, quoi, mais là, c'est injuste, là. Fait chaud, là. Pourquoi qu'eux autres, ils ont des chars puis ils ont des bœufs, alors que moi, je le porte sur mes épaules? Moi, je me connais assez bien pour vous dire, puis Nathalie confirme pas, mais que moi, j'aurais chialé. Il n'est pas dit que les Kehath l'ont fait. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont pas fait. Mais sans doute que moi, j'aurais chialé. Alors, je me dis, là où je veux en venir, c'est que la question qu'on doit se poser pour nous-mêmes, c'est comment on voit la sainteté à Dieu, la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Est-ce qu'on voit ça comme un fardeau à porter ou comme une grâce à préserver? Parce que les Kehathites, là, ils avaient été choisis parmi toute la nation d'Israël pour transporter les choses saintes. Et ces choses-là étaient tellement saintes que Dieu voulait qu'ils les portent sur leurs épaules et pas sur des chars tirés par des bœufs. C'est quoi l'optique qu'on a de la sainteté? C'est quoi comment on voit le fait que Dieu nous a appelés personnellement, en tant qu'élus, en tant que rachetés? Le Seigneur nous a élus, nous a rachetés, et il nous demande de poursuivre notre sanctification. Est-ce qu'on voit ça comme une grâce à porter? Ou comme une grâce à préserver ou comme un fardeau à porter? Et je crois que cette optique-là peut nous aider. Si on se rend compte que la grâce extraordinaire que Jésus nous a faite de nous avoir sauvés, je pense que la poursuite de la sanctification, on devrait la voir un peu plus comme une grâce que comme un fardeau. Et ça devrait nous aider dans sa poursuite. La volonté de Dieu pour moi, c'est d'être soumis. Tournez dans 1 Pierre 2. Colossiens 4, 12 nous dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Et Dieu veut aussi que nous soyons soumis aux autorités de ce monde. Donc, le passage nous dit que Dieu veut qu'on persiste à lui être soumis, à lui, à sa volonté. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu veut que l'on soit soumis aux autorités. Dans 1 Pierre 2, les versets 13 à 16, on peut lire, « Soyez soumis à cause du Seigneur. » C'est important ici. C'est dur, la soumission. Mais soyez soumis à cause du Seigneur, quand on comprend le pourquoi de la soumission à laquelle Dieu nous appelle, que c'est pour lui et pour sa gloire, ben ça devrait nous aider. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être soumis aux autorités? Bien, l'apôtre Pierre nous l'explique au verset 12. Il dit, Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Dieu nous demande d'être soumis aux autorités pour sa gloire. Pour sa gloire. Le Seigneur a dit quelque chose de semblable aussi en Matthieu 5, 16. En Matthieu 5, 16, il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La soumission est la volonté de Dieu pour nous, pour sa gloire, d'une manière ou d'une autre. Dieu veut que l'on soit soumis à lui et aux hommes. Évidemment, notre soumission aux autorités ne doit jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, si les autorités nous demandent de désobéir à Dieu, ben on doit refuser. C'est clair. Et être soumis, ça ne veut pas dire non plus être des marionnettes. Ça veut dire vivre d'une manière exemplaire. Ça veut dire d'être des Bibles vivantes que tout le monde va être en mesure de lire juste en nous regardant vivre. Et faites-vous-en pas dire, « Ouais, mais là, j'ai mes erreurs, je ne suis pas parfait. » On est tous dans le même bateau, mais Dieu va s'arranger avec ça. Être soumis, c'est quelque chose de difficile, mais Dieu s'en sert parce que, comme il est dit en Matthieu 5, 16, il va parler à la conscience des gens qui vont nous regarder vivre, il va les attirer à lui pour le jour où il les visitera. Donc, notre soumission à Dieu et aux autorités sert la gloire de Dieu et est aussi un témoignage vivant par lequel Dieu va attirer des gens à lui pour les sauver. De sa naissance à sa mort, Jésus a été l'exemple suprême de soumission pour nous. D'ailleurs, à Gethsémané, la soumission du Seigneur était sans réserve. En Matthieu 26, 39, il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » De la naissance à la croix, Jésus a été l'exemple parfait de soumission en toutes choses. Jésus doit être notre exemple là-dessus, particulièrement quand c'est difficile. Pensons à ce qu'il a vécu à Gethsémané. Il savait tout ce qui l'attendait. Il savait tout ce qu'il allait souffrir pour la gloire de Dieu, mais pour nous racheter aussi. C'est pour nous que Jésus a fait ça. Alors oui, des moments difficiles dans la soumission, il va en avoir. Des fois où on n'est pas d'accord, où qu'on veut revendiquer, puis qu'on veut chialer, puis j'ai des droits, puis ma liberté, puis toutes sortes d'affaires, puis dans toutes sortes de situations. Puis des fois, là, c'est tellement fort. Puis moi aussi, là, ça n'a pas toujours été facile pour moi, là, mais il faut nous ramener à la volonté de Dieu qui est pour nous, qui est la soumission à l'exemple parfait de Jésus. La Bible nous appelle à cette même soumission à la volonté de Dieu aussi en Romains 12, les versets 1 et 2. L'apôtre Paul écrit aux croyants de la ville de Rome en disant, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cinquième point. La volonté de Dieu, pour moi, c'est que j'accepte de souffrir. Un Pierre 4, le verset 19 nous dit, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. » Voyez-vous, c'est la volonté de Dieu que l'on sait. Parce qu'il y en a qui souffrent selon la volonté de Dieu. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » La souffrance et les épreuves, là, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais Dieu se sert de ça pour toutes sortes de choses, pour notre croissance spirituelle, pour nous rendre aussi de plus en plus à l'image de Jésus, pour le témoignage chrétien, pour l'accomplissement de son plan, pour sa gloire et pour bien d'autres choses encore. Dieu se sert de nos souffrances, de nos épreuves. Mais savez-vous quoi? Il faut s'encourager parce que Dieu a promis plein de choses concernant la souffrance dans les Écritures. Premièrement, dans 1 Corinthiens, il dit que il n'y a aucune tentation ou épreuve à laquelle on va être soumis qui ne soit pas humaine, donc commune à tous les hommes. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, nos épreuves sont toujours balisées par le Seigneur. Il n'y a rien qui va nous arriver que le Seigneur ne permettra pas, puis il ne perdra jamais le contrôle là-dessus. On le voit d'ailleurs dans l'épisode de Job, dans le livre de Job, où Satan se présente devant Dieu pour demander la permission à Dieu de malmener Job. Mais Dieu, il a dit, « OK, vas-y, mais touche pas à sa vie. » Dieu balise nos épreuves. Hey, c'est-tu pas rassurant, ça? Dieu nous demande de souffrir pour lui, parce qu'il s'en sert pour sa gloire. Mais Dieu balise nos épreuves. Et il promet qu'aucune de nos épreuves ne sera jamais au-delà de nos forces. Et il ajoute même que Dieu qui est fidèle, connaissez-vous la suite? Trouvera toujours le moyen d'en sortir. C'est-tu pas extraordinaire, hein? Moi, ça m'encourage. La souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est normal. Alors, c'est la volonté de Dieu que l'on souffre parfois. En Actes 21, le prophète Agabus avait prédit même les souffrances et les emprisonnements qui attendaient l'apôtre Paul. Alors, les chrétiens de Césarée, qui étaient avec lui, tentèrent d'empêcher Paul d'entreprendre ce voyage. Mais Paul va leur dire, au verset 13 et 14 de Actes 21, « Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Wow! Wow! Puis en acte 9 aussi, les versets 15 et 16, le Seigneur était apparu à un dénommé Ananias dans une vision et il lui avait dit concernant Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'Église et qui allait devenir l'apôtre Paul, il dit, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Vous savez, il y a cet évangile de prospérité là qui sévit beaucoup dans le monde, qui est une hérésie, là, qui est un mensonge. Croyez pas ça, là. L'évangile de prospérité qui dit, venez à Jésus, puis vous aurez plus de problèmes. Fini. Plus de problèmes d'argent, plus de problèmes de santé, plus de problèmes de relations. Moi, c'est pas ce que je lis dans ma Bible. Les souffrances, il y en a. Ça fait partie de la game. Et Dieu, c'est même sa volonté que l'on souffre pour lui, pour sa gloire. Alors, l'évangile de prospérité, c'est du grand n'importe quoi. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons prêts à souffrir pour lui. Quand ça vient de lui, évidemment. T'sais. Puis, dans nos souffrances, on a le droit de demander au Seigneur de nous sortir de là puis d'apaiser. C'est correct, là. La prière est toujours de mise, a toujours sa place là-dedans. Mais comprenons qu'on ne vit rien d'anormal quand on souffre pour le nom du Seigneur Jésus. Et combien d'hommes et de femmes à travers l'histoire ont souffert, ont été malmenés, emprisonnés ou mis à mort pour le nom de Jésus? L'histoire en est remplie. Et nous aussi, on est appelés à souffrir pour le Seigneur. Peut-être pas par la prison ou par la mort, en tout cas pas dans notre société québécoise aujourd'hui, ça peut venir, mais on n'est pas encore là. Mais il y a quand même toutes sortes de difficultés et d'épreuves que l'on peut rencontrer dans nos vies chrétiennes et qui fait que c'est pas facile. Mais quand ça va mal, ne baissons pas les bras. Accrochons-nous au Seigneur. Le Seigneur sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Le Seigneur, il n'est jamais dépassé par aucune situation. Alors, faisons-lui confiance, sachant qu'il a un plan et que dans son plan, la souffrance pour nous en fait partie. Et accrochons-nous à lui de toutes nos forces. C'est correct de pleurer, là. C'est correct de dire au Seigneur qu'est-ce qu'on ressent sous notre cœur, là. De toute façon, il sait pareil, il voit. Alors, aussi bien de lui dire, hein. Les psaumes sont remplis de toutes sortes de tristesses, de sentiments des fois. T'sais, on voit ça des fois. Seigneur, brise-lui les dents. Puis bon, là, je vous dis pas de prier dans ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est que on voit dans les psaumes qu'on peut répandre notre cœur devant l'Éternel. toujours avec le respect qui lui est dû. Puis même sinon, mais Seigneur, il voit nos cœurs, il voit notre tristesse, il voit notre désarroi, il voit... N'ayons pas peur d'aller avec lui. J'avais lu il y a quelques années un livre de Max Lucado qui s'appelait « Quel sauveur merveilleux ». Et j'avais retenu un passage où il disait « Si vous pensez que Dieu ne peut pas compatir à votre souffrance, regardez la main qu'il vous tend et vous verrez qu'elle a déjà été percée. » J'avais trouvé ça bon. Alors la volonté de Dieu, c'est aussi qu'on souffre pour lui, mais si on trouve ça injuste et qu'on s'entête à ne pas lâcher prise et juste chialer, bien, on n'apprendra rien dans notre épreuve. Et savez-vous quoi? Tant qu'à passer une épreuve, là, bien, autant en apprendre quelque chose, en sortir grandi, plus fort, parce que sinon, on va avoir souffert pour rien. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous qu'on souffre pour rien. Dieu a toujours un plan. Et en guise d'encouragement, le Seigneur nous fait une promesse extraordinaire en Matthieu 5. Matthieu 5, les versets 10 à 12, Jésus nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est-tu pas extraordinaire? Le Seigneur nous dit, regarde, vous souffrez, mais la récompense qui vous attend est beaucoup plus grande que votre souffrance. Et c'est une promesse. Alors, comme pour la sainteté, changeons notre optique de la souffrance, sachant qu'elle est pleine de promesses glorieuses et considérons ce qui est écrit en Actes 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et encore une fois, notre exemple suprême, c'est Jésus lui-même, qui, en vue d'accomplir l'œuvre de la croix, celle qui nous rachèterait de nos péchés, a énormément souffert. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rapporte ces paroles de Jésus qui dit au Père, en Hébreux 10, 6 et 7, « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Comme on a vu au début du message, la volonté de Dieu pour nous, c'est premièrement qu'on soit sauvé. Et Dieu le désire tellement qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus pour souffrir et mourir avant de ressusciter, afin de nous donner la vie éternelle. Les sacrifices et les holocaustes, parce qu'il y a question de ça dans le passage, ça a été fait cependant des siècles par les Juifs, mais ça ne pouvait pas satisfaire pleinement la justice de Dieu. Tout ça préfigurait le sacrifice ultime et parfait qui serait fait une fois pour toutes et par lequel nous devions être sauvés. Et c'est pour ça que Jésus est appelé en Jean 1, à deux reprises, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était l'agneau de Dieu. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient celui qui ne serait fait qu'une seule fois et qui lui satisferait totalement la justice de Dieu. Tout ça était l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors, c'est la même chose aussi pour toutes les religions. Aucune religion ne peut sauver qui que ce soit, parce que c'est Jésus qui sauve, et lui seul, par sa mort et sa résurrection. Jésus a accompli la volonté du Père en souffrant et en mourant à la croix pour nous prouver à quel point il nous aime tous personnellement. Alors toi qui es dans la salle, je reviens à ce que je disais au début. Si tu n'as pas fait Jésus ton sauveur, sache que Jésus t'appelle à lui parce qu'il t'aime tellement qu'il veut te sauver. C'est sa volonté pour toi. La Bible nous dit, en Romains 5, 8, que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas écrit que Christ est mort pour nous parce que nous étions du bon monde? C'est écrit qu'il prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est le encore des pécheurs, là. On était ennemis de Dieu. On rejetait Dieu. On ne voulait rien savoir de lui. Et malgré ça, Dieu nous aimait tellement qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour toi. Alors, si tu es ici ce matin et que Jésus n'est pas ton sauveur, considère ça. Dieu t'aime à la folie. Il veut te sauver, c'est sa volonté. C'est premièrement sa volonté pour toi. Je t'invite à dire à Dieu, si ton cœur brûle en dedans, c'est que Dieu t'appelle. Toi qui es dans la salle peut-être et qui n'as pas fait Jésus ton sauveur, là, dis-lui que tu regrettes ton péché. Demande-lui de faire de toi son enfant. Tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant, ça va venir avec le temps. Ça fait 25 ans que je suis chrétien, puis il y a bien des choses que je ne comprends pas encore. Mais une chose que je comprends, c'est que la volonté de Dieu pour moi, ben, je la comprends pas toute, mais suffisamment pour savoir que Dieu m'aimait à la folie et qu'il voulait me sauver, mais ça devait passer par la repentance. Et Dieu t'invite à le faire ce matin. Et je te laisse ça avec lui, mais dis-lui, c'est entre toi et lui que ça se passe dans ton cœur. Demande à Dieu de te sauver. Confesse, repens-toi devant lui, c'est-à-dire dis-lui que tu as des péchés. Et dis-lui que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi, que c'est pour toi qu'il a fait ça à la croix. Dis-lui que tu veux recevoir le Saint-Esprit et que tu veux marcher avec lui. Fais de lui ton sauveur. Maintenant, fais-le. N'attends pas, demain sera peut-être trop tard. En résumé, la volonté de Dieu pour tous les croyants se résume assez bien par ces 5 points-là. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Mais je pense que c'est un bon point de départ qui reflète assez bien la volonté de Dieu pour tous. Voyons maintenant le 6e et dernier point qui concerne la volonté individuelle de Dieu pour chacun de nous. Premièrement, sa volonté, c'est que l'on respecte ces 5 points-là. C'est primordial. Et ensuite, la volonté de Dieu, elle est celle-ci. Faites ce que vous voulez. Tout à fait. Faites ce que vous voulez. Parce que si les cinq premiers points sont déjà présents dans votre vie, là, ben c'est clair que c'est Dieu qui dirige vos désirs. Alors faites ce que vous voulez. Parce que vous ne serez pas porté naturellement à faire quelque chose qui va offenser Dieu, qui va être contraire à sa parole ou à sa pensée. Si vous êtes sauvé, que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu dans votre vie, que vous poursuivez la sainteté, que vous êtes soumis au Seigneur et que vous acceptez de souffrir pour lui, vous ne ferez jamais rien qui va lui déplaire. Alors faites ce que vous voulez parce que vous êtes déjà dans la volonté de Dieu. Maintenant, il faut prier pour que le Seigneur nous dirige de façon plus spécifique, mais si ça c'est là, faites ce que vous voulez. Regardez qu'est-ce que le psalmiste a dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu ne dit pas qu'il va assouvir tous nos désirs égoïstes. C'est pas ça qu'il dit. Mais si on cherche à rester dans sa volonté, alors on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut parce que nos désirs ne seront pas contraires aux siens. Ils ne seront pas péchés, ils ne seront pas un mauvais témoignage, ils n'iront pas à l'encontre des principes de la parole de Dieu. Évidemment, il faut prier et demander à Dieu des confirmations. C'est ce que Gédéon avait fait avec cette oison. Dans le livre des Juges, on voit Gédéon qui est là et Dieu lui apparaît et il lui dit d'aller combattre les Madianites. Et là, Gédéon, il ne veut pas, mais là, Dieu parle avec et là, les événements se passent. Et Gédéon, à un moment donné, à 2 reprises, hein, il met une toison devant Dieu. Est-ce que Gédéon, en mettant sa toison, cherchait la volonté de Dieu? Non. Il connaissait la volonté de Dieu. Dieu avait dit, tu vas aller combattre les Madianites. En mettant sa toison, là, Gédéon ne cherchait pas la volonté de Dieu. Il cherchait des confirmations de la volonté de Dieu. Gédéon disait, écoute, Seigneur, je veux être bien sûr que c'est ça que tu veux. Confirme-moi-les, là. C'est ça, les toisons que Gédéon a faites. Et pour trouver la volonté spécifique de Dieu, ben, c'est pas mauvais des fois de mettre des toisons, de dire, Seigneur, envoie-moi un signe. Parle-moi. Vous savez, Dieu, là, pour trouver sa volonté spécifique, c'est souvent par les désirs de notre cœur que ça doit commencer. Parce que c'est souvent lui qui met ses désirs dans nos cœurs. Donc, je vous dirais, commencez par regarder ce qui est dans votre cœur. Si vous savez déjà que c'est pas péché, que c'est pas un mauvais témoignage, etc., Bon. Ensuite, les circonstances. Dieu nous parle par les circonstances. Et aussi par les toisons. Seigneur, ouvre des portes. Ferme des portes. Puis on se laisse diriger avec le temps selon les portes que Dieu ouvre ou ferme. Comme un bateau. Mais il faut se mettre en marche. John MacArthur disait dans un de ses livres, il comparait un bateau. Il disait, le bateau est là, mais là, vous prenez la mer, mais si vous voulez que le vent souffle, bien, rouvrez la voile. Puis le vent va souffler dedans. Bien, c'est un peu ça, la volonté de Dieu. Mettons-nous en marche. Laissons le vent souffler, puis nous diriger. Évidemment, il y a un gouvernail, il faut s'en servir. Mais demandons à Dieu des confirmations. Et là, ça va être plus précis. Et la clé, bien, c'est la prière. Évidemment, c'est la prière. Pensons, par exemple, au serviteur d'Abraham, en Genèse 24, 27. Et ce serviteur partit pour chercher une épouse à Isaac, et il va finalement dire, en Genèse 24, 27, « L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Il s'était mis en marche, il s'attendait à Dieu, et Dieu l'a conduit exactement là où il devait être. Croyez-vous que Dieu ne peut pas faire ça avec nous aussi? Évidemment que Dieu le peut. Dieu veut nous diriger, il faut juste se mettre en marche puis lui faire confiance. Alors, n'attendons pas non plus de savoir tout sur la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Avançons dans ce qu'on sait que Dieu veut pour l'instant, et il va nous montrer, en ouvrant, en fermant des portes, le restant au moment opportun. Parce que Dieu nous révèle la plupart du temps sa volonté par étapes. Alors, on doit avancer par la foi, sur nos genoux et en prière. C'est la clé. En conclusion, j'essayais de trouver une façon de nous aider à trouver la volonté de Dieu et j'ai pensé aux quatre P. La parole, la paix, les portes et la prière. Donc, la parole. Évidemment, pour trouver la volonté de Dieu, il faut être conforme à la volonté générale de Dieu, celle qu'on a vue au début, là. Ensuite, la paix. Parce que quand on est dans la volonté générale de Dieu, souvent nos désirs viennent de Dieu. Ils sont nobles. Donc, et quand on est devant des situations, il y a des situations qui nous apportent une paix plus que l'autre. Alors, ça nous aide à se diriger. Les portes, ce sont les circonstances évidentes par lesquelles Dieu nous parle. Pensez à la toison Gédéon. Donc, le Seigneur ouvre des portes, il en ferme d'autres, puis des fois, faut pas, on a peur d'avancer. Mais il faut aller, puis dire, Seigneur, écoute, moi, je m'en vais là, je la prends, cette porte-là, puis si c'est pas ta volonté, ben ferme la porte.